Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une fois n'est pas coutume, Franck Ferrand n'est pas à mes côtés ici au studio Coluche d'Europe 1 à Paris. Mais c'est une émission spéciale depuis Marseille qu'il vous propose. Bonjour cher Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Marseille est cette année capitale européenne de la culture et ce grand événement Marseille-Provence 2013 va marquer son histoire et ouvrir, le énième chapitre d'une saga presque trois fois millénaire. Cela fait en effet 26 siècles que des Grecs sont venus fonder ici la plus ancienne ville de France, une cité qui aujourd'hui, avec plus d'un million d'habitants si l'on compte l'ensemble de sa communauté urbaine, est la deuxième ville de France évidemment. Alors nous allons voir les choses de haut dans cette émission, je devrais dire d'en haut, puisque nous sommes montés jusqu'à Notre-Dame de la Garde, qui depuis 8 siècles domine Marseille, la protège et veille sur ses habitants. Vous savez, c'est une tradition sacrée ici. Lorsque les marins, en partance ou en transit, lorsque les voyageurs, lorsque les pèlerins de Provence ou simplement les Marseillais rencontrent une épreuve dans leur vie, quand ils ne savent plus trop à quel saint se vouer, à qui s'en remettre d'un avenir qui leur paraît sombre ou périlleux, ils font cette ascension. Ils montent comme on dit, ils montent à pied. Autrefois, certains le faisaient même pieds nus. Ils grimpent jusqu'à la bonne mer, comme on l'appelle ici. Et depuis cette hauteur, entre la terre et le ciel, ils s'en remettent à Notre-Dame de la Garde. Alors, pourquoi ce nom de la Garde? Eh bien, parce qu'autrefois, et l'on n'a aucun mal à le comprendre lorsqu'on est ici, ce promontoire accueillait un poste de vigie. Il faut vous dire qu'on a une vision extraordinaire à 360 degrés sur l'ensemble de cette rade de Marseille et de tous ses environs et des montagnes qui ferment l'horizon. Ce promontoire permettait un poste de vigie tourné à la fois sur l'arrière-pays et sur la côte, la belle côte des Corniches et des Calanques, et vers la mer d'où provenaient tant de navires. Dites-vous que durant des siècles, Marseille aura été la plus grande, oui, la grande porte du Royaume de France, puis de l'Empire et de la République, cette porte ouverte sur l'Orient. Il fallait passer par Marseille pour débarquer des marchandises, ce qui n'allait évidemment pas sans risque. Rappelez-vous notamment les conséquences en 1720 avec la terrible peste de Marseille. Mais il fallait passer aussi par Marseille pour s'embarquer vers le lointain, parfois vers une nouvelle vie, surtout à partir de l'ouverture du canal de Suez et de cette route maritime d'Extrême-Orient, dont le point de départ, une fois encore, était Marseille. Alors nous allons parler du port de la Joliette tout à l'heure, mais aussi du vieux port et de ses truculents souvenirs. Nous allons redécouvrir Marseille ensemble à la veille de l'inauguration du magnifique MUCEM, le musée des civilisations de la Méditerranée, qui ouvre donc ses portes demain. Et puisque notre émission d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec le magazine Pèlerin, qui consacre dans son numéro de la semaine un dossier vraiment remarquable à Marseille et aux chrétiens de la Méditerranée, eh bien nous allons évoquer les grands sanctuaires marseillais, la Major évidemment, le Sacré-Cœur, Saint-Victor, là juste à côté, merveilleuse abbaye, et puis Notre-Dame de la Garde, où nous sommes en ce moment même avec cet extraordinaire panorama à couper le souffle. Notre-Dame de la Garde, où nous accueille le père Bouchet, qui est le recteur de la basilique. Bonjour mon père.
Bonjour et bienvenue à votre émission et un grand merci d'avoir choisi ce haut lieu. Pour,
au lieu, au sens propre du mot.
Oui, exactement. C'est au lieu qui nous est si cher à nous, Marseillais, et qui vous accueille avec un grand plaisir.
Elle est là, la bonne mer. Hein. Elle mesure 11 mètres de haut. Elle est dorée et elle domine Marseille. Les Marseillais ont de temps en temps un regard vers elle.
Il suffit que vous alliez chez quelqu'un, jusque vers les hôpitaux qui sont pas loin, là, où on les voit en face de nous. Et si vous allez voir un malade, vous allez voir quelqu'un, s'il voit la Vierge de la Garde de chez lui, il vous dit, venez voir, je la vois.
Avant de venir ici, j'ai oublié de demander à Lorena Martin, qui prépare comme toujours ses émissions, s'il y aurait quelqu'un avec la sang. Vous êtes là pour nous prouver que nous sommes bien à Marseille, mon père. Et ça fait plaisir d'entendre cet extraordinaire accent marseillais. Quand je vous entends parler, je songe au grand Rému, au grand Alerme, qui sont, dans, on peut dire, qui, aux côtés de Marcel Pagnol, hein, bien entendu, qui sont restés dans le cœur de tous les Français. Vous vous rappelez la célèbre partie de cartes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec une émission spéciale d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1 depuis la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, Franck.
De la sacristie, nous avons monté quelques marches et nous voilà dans l'église haute de Notre-Dame de la Garde. Je dis l'église haute, mon père, parce qu'il faut dire qu'il y en a une autre, juste au-dessous.
Oui, dessous, c'est la crypte, qui est réservée davantage à la prière silencieuse.
Cette basilique qui s'inspire directement de ce qu'on peut voir à Byzance, à Constantinople, avec des mosaïques dorées dans un style romano-byzantin. On va y venir tout à l'heure. Bonjour Magali Chaput.
Bonjour.
C'est vous qui êtes la responsable de ce musée qui va ouvrir d'ici quelques jours, à la mi-juin, va s'ouvrir le musée de Notre-Dame de la Garde. Parce que jusqu'ici, on venait visiter ce monument emblématique entre tous de Marseille, et l'on ne savait pas grand-chose, ni sur sa construction, ni sur ses origines.
On dit souvent que la Bonne Mère appartient à tout le monde et qu'elle est très connue par l'ensemble des Marseillais. Mais finalement, on se rend compte, en observant les visiteurs, que beaucoup ignorent l'historique de ce sanctuaire.
Alors j'ai dit tout à l'heure que Notre-Dame de la Garde avait 8 siècles. Mmh. Et évidemment, ça n'est pas le monument dans lequel nous sommes qui a 8 siècles, il est tout à fait 19e. On ne peut pas faire d'architecture plus représentative du milieu de la fin du 19e siècle. Mais il y avait autrefois un bien plus ancien sanctuaire, il faut expliquer ça.
Effectivement, il n'y a pas eu d'événement particulier, il n'y a pas eu d'apparition, on va dire, comme dans d'autres lieux. Ici, c'est simplement la volonté d'un prêtre qui a souhaité venir ici pour s'installer.
En ermite, en quelque sorte.
En ermite, hein. Exactement, pour prier la Vierge Marie. Il a demandé une autorisation à l'abbaye de Saint-Victor, qui était propriétaire des terres à l'époque.
Qui se trouve juste ici, en contrebas, en fait.
Hein.
Donc
fait,
on comprend qu'elle ait été propriétaire de ce terrain-là, bien sûr.
Et donc, il a pu, grâce à cette autorisation, venir construire un premier petit oratoire dédié à la Vierge Marie.
Et donc ça, c'était, on arrive à le dater en 1214, donc ça va faire 800 ans l'année prochaine. Autant dire que votre musée est le bienvenu, puisqu'il va ouvrir non seulement pour cette année où Marseille est capitale européenne de la culture, mais aussi pour les 800 ans de Notre-Dame de la Garde. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce musée?
Alors il s'agit d'un musée de sites, qui est donc dédié à l'histoire du sanctuaire. Ce sont des collections issues dans leur totalité de nos réserves, à la fois des objets historiques, mais également des ex-voto, toutes ces collections donc,
alors,
qui ont un sens
évidemment,
particulier.
Évidemment, toutes les chapelles des bas-côtés sont couvertes d'ex-voto, de tableaux. On va parler tout à l'heure de ces ex-voto. Il y en a bien d'autres, d'ailleurs. On est dans un endroit où il y a eu énormément d'actions de grâce et de remerciements de tous ordres. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne à l'histoire du site. Au XVIe siècle, François Ier vient à Marseille. On est en
1516, oui,
la
pour
première
sa première
fois,
venue,
oui.
Effectivement, oui. Lorsqu'il a constaté qu'effectivement, la ville de Marseille
n'était pas
assez
défendue,
mal
en
défendue,
fait, mais oui.
Oui. Il y avait des remparts, mais il manquait une protection militaire, d'où la nécessité de construire des forts. Et ici, en tant que plus haut lieu de la ville de Marseille, il s'agissait également d'un lieu particulièrement stratégique, d'où la construction du fort de la Garde.
Quand on va un peu plus loin, qu'on va du côté du palais du Pharo, on voit cette vue extraordinaire sur les fortifications du port, hein, du vieux port de Marseille et d'une partie de la baie. Tout ça date d'encore plus tard, c'est du temps de Louis XIV, hein, c'est la grande époque évidemment des fortifications un peu partout.
Oui,
on a
fait.
Eu, notamment vers la fin du règne de Louis XIV, de grandes constructions. Marseille a été évidemment très convoitée par les ennemis de la France au cours des siècles, puisque je dis tout à l'heure qu'elle était la porte d'entrée dans le royaume de France, la porte d'accès à l'Orient.
Bien sûr, tout en étant tourné vers la mer, c'était le point de passage inévitable pour accéder à toutes ces zones. Donc, un intérêt crucial, effectivement.
Et puis, dans quelques semaines maintenant, on va célébrer le 69e anniversaire du débarquement de Provence. C'était le 15 août 1944. Oui. Il y a eu en 1944, là aussi, des combats très importants. Ici même, d'ailleurs.
Effectivement. C'est sûrement la période où le fort de la Garde a été le plus actif, le plus montré, le plus regardé par l'ensemble de la population, puisque la libération de Marseille a commencé par celle de la colline de la Garde. Nous avons d'ailleurs un souvenir important qui est le char Jeanne d'Arc qui se trouve en contrebas.
On peut dire que Notre-Dame de la Garde, mon père, est un peu considérée comme, comment on pourrait dire, c'est le point d'ancrage, c'est la référence des Marseillais, c'est leur soutien.
Oui, c'est certainement leur vigie.
Leur vigie, c'est très
voilà.
Bien dit.
Et ils savent que de là... Ils sont regardés et ils sont attendus s'ils montent.
Et quand on est là-bas, en bas dans la ville, quand on dit monter, il n'y a pas besoin de préciser. On sait que ça veut dire monter à Notre-Dame-de-la-Garde.
C'est pour monter à la Vierge, comme on dit chez nous.
Alors l'église, la basilique telle qu'elle existe aujourd'hui, elle date du milieu du 19e siècle. Il faut expliquer dans quelles circonstances elle a vu le jour.
Oui, alors effectivement, la basilique a été construite à une époque où le nombre de pèlerins a augmenté. Il faut bien comprendre que le fort de François Ier a englobé la petite chapelle qui était déjà sur place.
Mais oui.
Cette petite chapelle est vite devenue donc trop peu importante. Donc on a décidé la construction de cet édifice dans un style romano-byzantin qui répondait à la fois aux modes de l'époque.
On est sous le Second Empire, on aurait pu imaginer que la basilique fût néo-gothique comme l'était un grand nombre des édifices religieux de l'époque. On a préféré ce style plus byzantin, justement presque roman, un peu plus massif disons.
Effectivement, c'est un mélange des deux.
Voilà.
La position en haut de la colline rendait le style gothique un peu périlleux.
Oui.
Il était
ça souffle
difficile,
ici, hein,
voilà, d'envisager de hauts vitraux et de longues flèches dans un endroit où le mistral est aussi important. Donc le style roman, effectivement, était plus intéressant.
Nous nous retrouvons dans un instant, toujours ici, au sein même de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Alors nous n'avons pas bougé, Julia, nous sommes toujours dans l'église, l'église haute de cette basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille. Nous sommes sous les ors de ces extraordinaires mosaïques byzantines et nous sommes entourés d'ex-voto. Ça, c'est une des particularités, évidemment, de cette basilique, mon père.
C'est ce qui fait que quand on dessert ici, comme nous le faisons nous, on se sent tout petit à travers tout ce que ces ex-voto expriment. Je dis souvent, quand on fait visiter la basilique, quand vous voyez un ex-voto, dites-vous, il y a toujours eu un drame et il y a eu un remerciement.
Que d'attente, que d'espoir, de remerciement, ouais. D'émotion autour de chacune de ces plaques, de chacune de ces œuvres aussi, car il faut expliquer qu'il y a évidemment un grand nombre de tableaux qui représentent tantôt des domaines, tantôt des scènes maritimes, et pour cause, il y a beaucoup de marins qui ont fait des prières ici.
Exactement. Et puis, vous les avez aussi dans les maquettes qui sont suspendues au-dessus de tout de la nef centrale.
On a des cordons auxquels sont suspendues des maquettes de navires,
voilà.
En fait.
Hein. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nous en recevons toujours.
Eh oui.
Donc nous ne sommes pas dans un lieu, je dirais, périmé ou ancien.
Mais ça n'est pas un musée.
Voilà. Et en même temps, on a les drames d'aujourd'hui.
Jamais le terme de sanctuaire n'a été mieux utilisé, probablement. Alors Magali Chapu, il faut expliquer qui est l'architecte de ces lieux. Le véritable architecte, parce qu'en fait, il y en a deux, si je puis dire. C'est ça l'histoire.
Henri Espérandieu. Alors effectivement, vous parliez tout à l'heure de la cathédrale de la Major, qui est dans un style très ressemblant à celui de Notre-Dame de la Garde. Effectivement, les deux édifices sont contemporains. Il s'agit d'un certain Vaudoyer qui était architecte à la Major et qui avait...
Vaudoyer, hein.
Vaudoyer, oui. Oui, tout à fait. Et qui avait comme aide architecte également un certain Henri Espérandieu, qui lui était particulièrement jeune et qui de plus était protestant.
Et voilà, c'est ce qui est assez étonnant. maintenant, et on est dans cette tradition marseillaise d'ouverture, en quelque sorte, toujours.
Tout à fait. Mais le contexte était particulier, et afin de donner toutes ses chances à son jeune associé, Vaudoyer a eu la délicatesse de présenter le projet dans un premier temps, d'attendre que celui-ci soit validé, pour ensuite avoir l'élégance,
ensuite, oui.
Voilà, de se retirer et de dire non, c'est quand même espérant Dieu qui a fait le travail.
Bonjour Catherine Lalanne.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était dans la nef de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame de la Garde,
d'un sanctuaire
Marseille.
À l'autre.
Oui, d'un sanctuaire à l'autre. Alors, vous consacrez un numéro de pèlerin à ces grandes basiliques, à ces grands sanctuaires marseillais. Donc ici, Notre-Dame de la Garde, la Major dont on a parlé, mais pas seulement.
Oui, à Notre-Dame de la Garde, à la Major, qui est la vigie du port de Marseille, mais aussi au mémorial du Sacré-Cœur, et enfin à Saint-Victor l'Antique, qui est le reliquaire du christianisme marseillais. Nous avons eu l'idée de concevoir pour la capitale européenne de la culture une balade inspirée entre la pierre et les hommes, le patrimoine sacré et la spiritualité. Nous avons été guidés sur ces pas par l'Institut catholique de la Méditerranée.
Alors vous avez, comme à chaque fois, demandé à Stéphane Compoint de réaliser de magnifiques photos grâce à ce système qu'il est le seul à utiliser, hein, cet appareil photo embarqué à bord d'un ballon qui lui permet de photographier les édifices à mi-hauteur, en quelque sorte. Quand il y a du mistral, c'est pas très pratique, évidemment.
Quand ça souffle, c'est dangereux pour son ballon. C'est vrai qu'il est le seul en France à maîtriser cette technique d'accrocher son appareil photo à un ballon dirigeable, captif, et de pouvoir faire ses photos à hauteur humaine, comme il le dit, enfin, hauteur humaine. Il peut monter 30 à 40 mètres au-dessus des clochers.
C'est un géant.
C'est un géant, voilà. Et il fait, il nous offre ces images inédites à hauteur de nuages ou à vol d'oiseau, si vous préférez, et nous permet de redécouvrir les monuments tels qu'on ne les a jamais vus. À Notre-Dame de la Garde, le père Boucher lui a permis de passer la nuit sur la colline inspirée.
C'est-à-dire qu'il a fait des photos au coucher du soleil, et comme ici on a une vue de toute façon à 360 degrés, il en a refait le lendemain au lever du soleil. C'est
exactement,
ça,
hein, c'est un des plus beaux souvenirs de sa vie de photographe aérien, si j'ose dire, d'avoir pu voir le lever et le coucher du soleil sur Notre-Dame de la Garde, et de voir comme ça toutes les lumières éclairer le bâtiment. Il en était vraiment très très ému.
Le numéro de pèlerin est en kiosque aujourd'hui ?
Oui, dans tous les kiosques de Marseille, c'est une édition spéciale Marseille, mais dans tous les kiosques de France et pour toute la semaine qui viendra.
Formidable. Et dans ce numéro, il y a tout un dossier consacré aux chrétiens d'Orient et à toutes ces communautés chrétiennes que l'on trouve ici à Marseille. C'est un dossier passionnant que nous allons feuilleter ensemble dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et direction Marseille, précisément au cœur de Notre-Dame de la Garde, où nous attend notre cher Franck Ferrand.
Saint-Victor, la Major, le Sacré-Cœur et Notre-Dame de la Garde où nous nous trouvons. Nous sommes de retour dans la sacristie, c'est un peu plus confortable que lorsque nous déambulons comme ça avec les micros HF. Ce sont donc ces quatre basiliques à travers lesquelles bat le cœur de Marseille et qui font l'objet de ce numéro spécial, en tout cas de ce dossier spécial dans Pèlerin, Catherine Lalanne.
Oui.
Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Pèlerin, je ne l'ai pas dit, mais nos auditeurs vous connaissent maintenant.
Ces quatre basiliques ne sont pas que de pierre. Elles incarnent chacune une facette de l'histoire du christianisme à Marseille et renouvellent la tradition d'accueil de l'étranger qui a commencé 600 ans avant Jésus-Christ, quand le marin phocéen Protis,
oui,
débarque dans la Calanque bleue et épouse Gyptis, la Provençale, et que de cette alliance découle un métissage, un goût de l'autre, du dialogue, de la tolérance, que 600 ans plus tard, Lazare et Marie-Madeleine qui débarquent sur les côtes de Provence, et Lazare qui viendra évangéliser ce port cosmopolite et bigarré, reprendra dans les premiers pas du christianisme marseillais.
Et puis il y a un personnage qui joue un rôle essentiel, c'est Saint-Victor.
Saint-Victor, martyr, sur lequel, alors là, il nous faut reparler de Jean Cassien, ce moine qui, vers 416 après Jésus-Christ, qui est roumain, mais qui est formé à l'école de Constantinople, qui amène un vent oriental dans le monachisme en France. Il va faire édifier sur les tombes de ses premiers martyrs, dont Saint-Victor, que vous citiez, une abbaye qui va rayonner sur toutes les rives de la Méditerranée.
Alors dans ce dossier spécial Marseille, il y a un cahier qui s'appelle « Les communautés chrétiennes orientales de Marseille » qui est signé Luc Balbon. Et ça, c'est une enquête tout simplement passionnante. Vous nous révélez, Luc Balbon, enfin en tout cas, vous m'avez révélé à moi, parce que j'imagine que pour un certain nombre de nos auditeurs, c'est une chose qui est déjà sue. Vous nous montrez l'importance de ces communautés différentes qui viennent des quatre coins de l'Orient et qui sont des communautés chrétiennes installées ici, à Marseille.
Sur une population d'un million d'habitants, il y a près de 140 000 chrétiens d'Orient qui appartiennent à sept communautés différentes, sept ou huit communautés différentes, et même plus, parce qu'on n'a pas pris en compte des petites communautés qui n'ont pas de lieu, qui viennent les uns chez les autres prier. Mais il y a, sur 140 000 chrétiens d'Orient, il y a à peu près 80 000 à 90 000 arméniens apostoliques.
Alors voilà, en fait, c'est l'histoire qui a évidemment poussé ces communautés vers la France et vers Marseille. Alors, les plus anciens, est-ce qu'on peut dire ça? Ce sont effectivement les Arméniens après,
c'est non? Les Melkites.
Ah oui, alors voilà.
C'est les Melkites. Les Melkites sont arrivés en 1801, 1802, suite à une guerre, comme toutes les immigrations. C'est Napoléon qui finissait ses campagnes d'Égypte, a emmené avec lui une centaine d'individus qui ont fait souche à Marseille et qui ont construit une église, Saint-Nicolas-de-Myre, près de la Castellane, en 1821 ou 1822, qui est la plus vieille église d'Orient en France et peut-être en Europe.
Alors venons-en aux Arméniens. Ça, c'est après 1915.
C'est après 1915, suite à un drame, encore une fois.
Et quel drame, hein.
Les Arméniens ont commencé à émigrer vers Beyrouth et Damas, qui étaient des pays mandataires. Hein. La France avait puissance et mandataire. Voilà. Et la France a eu besoin de main-d'œuvre pour le port de Marseille, pour les docks, et on a fait venir les Arméniens.
Le port de Toulon aussi, qu'on est en train de construire.
Et on a fait venir les Arméniens à partir de 1920, 1922.
Ça veut dire qu'il y a une vraie, très importante communauté arménienne à Marseille.
Entre 80 000 et 100 000 individus, qui ont commencé d'ailleurs à construire leur église, et puis tout autour, après ils ont construit leur maison.
J'ai lu récemment un roman, alors qu'il ne parle pas spécialement d'affaires chrétiennes, puisqu'il s'agit plutôt de questions de télévision, un roman magnifique qui s'appelle « La vie déplorable de Charles Buscarons » de Jean-Pierre Cottet, et toute une partie du roman se passe dans cette communauté arménienne de Marseille, et on y découvre une truculence, une joie de vivre, une solidarité tout à fait extraordinaire. Vous l'avez ressenti, vous, dans votre...
Vous venez de parler de joie de vivre et on en parlait avec le père de Notre-Dame de la Garde tout à l'heure. Je pense qu'on dit toujours, et ça m'énerve puissamment, moi qui habite aussi une partie de l'année à Beyrouth, on parle toujours de la mort des chrétiens d'Orient. Or, les chrétiens d'Orient n'ont jamais été aussi vivants. Il y a une véritable vitalité, il y a une jeunesse. Quand vous allez à Beyrouth, quand vous allez au nord de l'Irak, dans la plaine de Ninive, Dieu sait si l'Irak a connu des drames, vous avez une vie, une vitalité, des initiatives qui se passent, qui sont absolument incroyable.
Et vous parliez de Beyrouth, évidemment, à partir de 1975 et de la guerre civile au Liban, on a vu affluer également, alors cette fois, ce sont des maronites.
Alors,
là, qui sont
arrivés. La première immigration date de 1947, c'était des soldats libanais qui avaient servi dans l'armée française et qui sont venus s'installer ici à Marseille. De là, on a construit un foyer libanais, puis Notre-Dame du Liban dans le parc Borély. Et puis la grosse affluence a été à partir de 1975 jusqu'en 1990, qui a été une immigration de guerre. Hein. Le Liban a connu 15 ans de guerre civile.
Et tous ces gens sont à Marseille, hein. C'est leur deuxième patrie en quelque
c'est
sorte.
C'est leur deuxième patrie, et puis les maronites ont toujours été rattachés à Rome, ils ont toujours été tournés vers la France aussi, ils sont très francophones, même si la francophonie recule aujourd'hui.
Vous avez dit un mot des Irakiens, évidemment maintenant des chrétiens de Syrie aussi, hélas, et vous n'avez pas parlé des Coptes, on a oublié les Coptes au passage.
Ils sont pas énormément
pas très nombreux,
à Marseille, hein. Ils sont à environ 2000. Bah, ils viennent là, en général, c'est des familles qui sont installées et qui reçoivent des parents qui fuient l'Égypte pour des raisons économiques, hein, bien sûr.
Merci beaucoup Luc Balbon pour ce magnifique reportage.
Et sur Europe 1, nous poursuivons la visite de Notre-Dame de la Garde à Marseille et notre guide se nomme Franck Ferrand.
Oui, Julia, alors nous sommes rentrés, nous étions tout à l'heure sur cette esplanade extraordinaire qui domine le panorama marseillais, et là nous sommes rentrés dans la sacristie de Notre-Dame de la Garde, où nous attendait Jean-François Chouniet, qui est le directeur de Marseille-Provence 2013. Bonjour Jean-François Chouniet. C'est un très grand événement pour, j'allais dire pour les Marseillais, mais d'une façon plus générale pour les Provençaux. On peut dire que votre région va être sous les feux de l'actualité pendant presque un an.
Pendant toute l'année 2013, oui. Puisque le titre de capitale européenne de la culture a comme caractéristique de tourner en quelque sorte d'une ville européenne à l'autre pendant une année civile.
Donc, on se rappelle l'extraordinaire impact qu'avait pu avoir ce titre de capitale européenne de la culture sur une ville comme Lille, par exemple. Hein. On peut dire que, en 2004, il y a eu une sorte de bain de culture à Lille, dont la ville reste encore aujourd'hui bénéficiaire. Est-ce qu'on peut espérer la même chose pour Marseille?
Oui, j'ai bon espoir. L'engouement du public depuis le début d'année, puisque nous avons ouvert en janvier, et ne se dément pas, puisque nous avons aujourd'hui plus de 2,6 millions de visiteurs, donc c'est considérable pour la ville de Marseille. Vous le rappelez, elle fait 1 million d'habitants, donc 2,5 millions, c'est beaucoup. Et on espère bien que ça va enclencher une nouvelle dynamique culturelle de cette ville.
Il ne faut pas oublier que c'est une ville qui est évidemment un incroyable creuset. Nous allons parler tout à l'heure de toutes les communautés qui composent la population marseillaise, à travers notamment toutes ces communautés de chrétiens d'Orient qui sont venus peu à peu au fil des générations s'installer ici. On en parlera, ce sera l'un des points forts, je crois, de cette émission. Évidemment, c'est une population bouillonnante, on va dire. C'est la capitale de la Méditerranée?
C'est une des capitales, je dirais, parce que la Méditerranée est justement une terre qui n'a pas de capitale, qui n'a d'ailleurs pas de contour géographique extrêmement précis. Si on commence à interroger les historiens, les sociologues, ils vous donneront des définitions différentes de la Méditerranée. Il y en a une très simple, qui est une définition géographique, et il suffit de prendre n'importe quelle carte de la Méditerranée pour s'apercevoir qu'effectivement, Marseille n'a pas usurpé son titre de port de Méditerranée et de port de l'Orient, d'ailleurs, qu'elle a longtemps porté.
Alors, on parle de Marseille, mais il faut parler de tout ce qui entoure Marseille, bien entendu. Je faisais à l'instant référence à Pagnol, on pense à Aubagne, mais il faut parler de tous les terroirs, de tout l'arrière-pays de Marseille, en vérité.
Oui, c'était d'ailleurs un des objectifs de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, c'est bien de recoller, de recoudre Marseille et son arrière-pays, comme on disait chez les géographes du siècle passé, avec d'ailleurs une très grande diversité dans cet arrière-pays. Donc Marseille est une ville, on le voyait bien de la terrasse tout à l'heure, est une ville entourée de montagnes.
D'un cordon rocheux, oui.
D'un cordon rocheux qui sont pas si faciles que ça à franchir historiquement. Et donc elle s'est tournée géographiquement vers la mer.
Les touristes commencent à venir à Marseille. Avant, pendant très longtemps, je l'ai fait moi-même à l'époque où on prenait le bateau pour aller, notamment, moi c'était en Tunisie, mais enfin de l'autre côté de la Méditerranée. Marseille était une ville où l'on passait généralement. Hein,
Oui, c'était la caractéristique effectivement de Marseille, c'était une ville d'étape, ville d'étape vers le port.
Et on commence à s'intéresser à Marseille même et à tout ce qui y entoure. Alors on parle des Calanques évidemment, c'est le grand centre d'intérêt, mais il y en a bien d'autres encore.
Je pense que Marseille est une des grandes cités méconnues parce qu'on la connaît trop bien. Il y a un peu ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a l'impression de la connaître, on la voit à travers le port, on la voit à travers évidemment certains de ses monuments emblématiques, et on ne fait pas toujours attention, et je pense que la capitale européenne de la culture, l'ouverture des nouveaux bâtiments va y contribuer. C'est une magnifique ville, splendide, auquel on ne peut que s'attacher, et qui en plus, certainement une de celles qui s'est le plus renouvelée ces dernières années.
Donc c'est un lieu merveilleux de promenade, il faut le dire. Hein. On peut y marcher, notamment.
Hein. On l'a d'ailleurs fait, puisqu'on a créé un sentier de grande randonnée. Oui. On oublie aussi parfois, puisqu'on parle d'histoire, que c'est les Marseillais qui ont inventé l'excursion à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est grâce aux excursionnistes marseillais que les Calanques ont été préservés, puisqu'à l'époque, on s'intéressait moins qu'à aujourd'hui à la préservation des lieux naturels. Mais il y avait ce groupe des excursionnistes qui tenaient à leurs Calanques.
Alors évidemment, on n'aurait pas le temps, dans le cadre d'une émission comme celle-ci, d'évoquer tous les événements qui vont émailler cette année jubilaire de Marseille. Mais quand même, on peut citer un certain nombre de très grands pôles d'attraction, notamment demain, puisque c'est demain, hein, le 7 juin, on ouvrira le célèbre, le fameux, le très attendu Mucem.
Oui, bah le, qui est donc le qu'il faut
musée des civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier le E d'Europe,
oui,
parce
oui,
qu'il
c'est
est,
vrai, on a
il est d'ailleurs particulièrement important pour nous dans le dans le cadre de l'année capitale européenne de la culture. Mais il y en a beaucoup d'autres. La ville de la Méditerranée, qui est son voisin, ouvre également dans quelques jours. Les musées de Marseille se rénovent et à partir du 13 juin, le Palais Longchamp, qui est fermé depuis maintenant presque 10 ans, rouvrira ses portes avec la grande exposition du Grand Atelier du Midi.
Vous nous avez compris, si vous n'avez pas grand-chose à faire ce week-end, vous prenez le TGV et Marseille vous attend.
Dernière ligne droite pour au cœur de l'histoire à Marseille. Et je crois, Franck, que vous souhaitiez revenir sur votre visite exceptionnelle, puisque vous en avez eu la primeur du nouveau musée, le MUCEM.
Alors, pour tout vous dire, avant de monter ici à Notre-Dame-de-la-Garde, j'ai visité ce matin, ça vient tout juste d'ouvrir, hein, donc j'ai été parmi les premiers visiteurs de ce musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ce MUCEM dont on parle tant depuis quelques semaines maintenant et qui est le point fort des manifestations de Marseille-Provence 2013. Alors, ce MUCEM, comment vous le décrire? D'abord, architecturalement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, il faut imaginer une sorte de résille de béton à travers laquelle on devine le bleu de la Méditerranée et l'ocre de cette côte marseillaise. On est dans ce qui était autrefois des quais tout à fait industriels du port de la Joliette, totalement réhabilité, transformé en véritable pôle culturel. C'est évidemment une visite en soi, l'architecture, si je puis dire, est en soi spectaculaire. Mais ça n'est pas tout, bien entendu. Lorsqu'on a terminé ce tour, alors ça a la forme d'une ziggourate, hein, c'est-à-dire que en fait vous avez comme des passerelles qui montent en pente douce et qui permettent de faire entièrement le tour de l'édifice. Et puis de cet édifice, on peut passer également, il y a une autre passerelle qui mène au Fort Saint-Jean, qui n'était pas ouvert à la visite, que les Marseillais connaissaient depuis longtemps simplement par sa silhouette et qui aujourd'hui, avec le jardin qui a été aménagé, fait partie intégrante de ce MUCEM. C'est donc une visite très importante. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce MUCEM? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer Catherine Santis, qui est l'administratrice générale de cette institution. Bonjour Catherine Santis.
Bonjour.
Quand on est comme je le suis, comme je l'ai été surtout dans mon adolescence, passionné par les Grèces, car il y en a de différentes natures, passionné par la Crète, par les Phéniciens, etc. On sait, par les Vénitiens aussi, à une période beaucoup plus récente, on sait à quel point cette civilisation méditerranéenne a été essentielle. C'est très étonnant de penser que jusqu'alors, aucun musée ne lui avait été consacré.
Oui, c'est une première. Il y a des musées de civilisation sur d'autres continents, notamment les pays asiatiques réfléchissent beaucoup autour de la notion de civilisation asiatique, tout en disant comme nous, et comme le disait Brodel, il n'y a pas qu'une civilisation méditerranéenne, il y a des civilisations méditerranéennes.
Et Brodel, mais c'est la référence en la matière.
Brodel est évidemment la référence, parce qu'il ne parle pas d'une Méditerranée géographique, qui ne serait d'ailleurs pas le sujet du MUCEM.
Bien d'une Méditerranée culturelle.
D'une Méditerranée culturelle, mais d'une Méditerranée traversée par des échanges, une Méditerranée dont partent des flux et vers laquelle aussi convergent des flux, qu'il s'agisse évidemment des flux de population, d'idées et aussi de marchandises. Oui, Brodel reste la référence.
J'ai promis à nos auditeurs qu'on allait leur dire ce qu'il y avait à l'intérieur de tout ça. Alors, au J4 déjà, ce qu'on appelle le J4, c'est donc l'ancien quai J4, hein, c'est ça J comme Joliette, j'imagine.
J comme jeté.
250 000 objets, 110 000 dessins, peintures, estampes, affiches, etc. 500 000 photographies, 140 000 cartes postales, 95 000 ouvrages, des centaines d'heures d'enregistrement audiovisuel, des collections donc très imposantes, mais dont on ne voit qu'une petite partie. Moi, ça a été une de mes surprises ce matin, c'est qu'il n'y a pas une quantité d'œuvres exposées. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas une infinité, en tout cas.
Alors, un musée, d'abord, si on prend l'exemple des musées des Beaux-Arts, qui sont des musées que j'ai beaucoup connus pour avoir travaillé dans certains d'entre eux, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a qu'une petite partie des collections qui sont au mur. Grosso modo, il y a 1500 œuvres sur 60 000, si je prends par exemple l'exemple du Centre Pompidou. Donc, nos collections, elles ont deux raisons d'être. Certains objets sont là pour l'étude. Hein. On n'a pas besoin d'exposer 250 sonnettes de table, ni des harnais, ni des machines d'imprimerie. Elles sont nécessaires aux chercheurs. Il était important que ce patrimoine industriel, agricole ou même urbain, c'était très important qu'il ne disparaisse pas, mais on ne peut pas forcément constituer des expositions autour d'eux. Alors, pour parler de ce qui est en ce moment montré au MUCEM, je crois que les quatre expositions même ouvrent des pistes. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ça n'est pas le MUCEM n'est pas un musée d'histoire, c'est un musée de civilisation. Est-ce que le rez-de-chaussée, la galerie de la Méditerranée, veut ouvrir comme piste? C'est au fond, qu'est-ce que le bassin méditerranéen comme bassin de civilisation a de spécifique? Quelles sont les domestications agricoles spécifiques? Quels sont les traits qui font de lui un bassin de civilisation particulier, différent du golfe du Mexique par exemple, ou différent de la mer de Chine? Et ce sont des premières pistes autour des monothéismes, de l'invention de la citoyenneté qui s'est élaborée de manière différente mais à plusieurs époques en Méditerranée. C'est vraiment de là que cette notion est partie, du voyage de découverte, du voyage du pèlerinage aussi, qui a eu lieu très très tôt en Méditerranée. Et puis, féminin masculin en Méditerranée, avec le premier titre, c'est « Au bazar du genre » ou « Le bazar du genre », féminin méditerranéen en Méditerranée, qui est une exposition de type sociologique sur les modifications dans les dernières 30 années, dans les rapports.
Une des régions les plus machistes du monde, quand même.
Des hommes et des femmes entre eux, mais aussi les rapports de chacun à sa propre identité de genre.
Merci beaucoup, Catherine Santis. On a vraiment fait qu'effleurer le sujet, mais vous nous avez, j'espère, enfin, vous avez donné à nos auditeurs envie d'aller visiter ce MUCEM dont ils vont beaucoup entendre parler pendant toute cette année. On peut d'ailleurs lire tout un grand article sur le MUCEM dans le numéro, enfin, dans le dossier spécial de Pèlerin.
Catherine. Oui, parmi ces 30 pages, nous avons bien sûr mis le focus sur le MUCEM dont vous avez si bien parlé. Nous proposons aussi des balades inédites sur le GR 2013, une balade inspirée dans le Marseille sacré de clocher en clocher et bien d'autres choses encore.
Marseille,
je ne vais pas tout dévoiler.
Toujours Marseille. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci, mon père, de nous avoir reçus ici, à cette basilique Notre-Dame de la Garde. On est stupéfait quand on se promène ici et quand on parle de toute la culture marseillaise, de l'infinie diversité de cette ville.
Ah oui. Et puis, et ici, c'est toujours accueilli. Et vous êtes monté et c'est avec une grande joie qu'on vous a accueilli. Et puis, de cette colline, il faut repartir. Ouais. Voilà. Et nous souhaitons toujours que ceux qui repartent avec rechargés de joie, de ce temps de paix, de sérénité qu'il y a sur ce lieu. Et puis et que pour vous, eh bien, ce travail que vous poursuivez à travers votre émission, elle puisse aussi se poursuivre et continuer à agrémenter le travail et la recherche et toute l'expérience de vos auditeurs que vous essayez de toucher.
Merci beaucoup, chère Julia. Nous vous envoyons à Paris cette grande bouffée d'humanité ensoleillée.